Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Bonjour. Qu'est-ce que le prix prémisse ? D'où vient ce prix ? Pourquoi faire ce prix ? Comment avons-nous eu vent de cette histoire ? Qui est Charlie Pless ? Combien sont-ils, comme lui, à avoir participé à cette aventure ? Et surtout, quels résultats concrètement sur le papier ? Nous avons 25 minutes pour répondre à toutes ces questions. Eh bien, bonjour Charlie Pless.
Bonjour.
On va commencer par les présentations, parce que vous travaillez pour Radio Alpa, mais je ne sais pas si tout le monde vous connaît vraiment complètement. Ouais. Donc, on va en profiter pour dire qui vous êtes, ce que vous faites, où vous habitez. Bon, voilà, vous avez, on peut tout de suite le dire, eu un master de création littéraire. Ouais. Mais autrement, vous êtes Sartois, vous êtes...
Oui, je suis Sartois, je suis né au Mans et j'ai toujours vécu au Mans. En fait, je n'ai bougé du Mans que pour le master de recherche création littéraire. Je fais attention à bien préciser recherche création littéraire parce que les deux pendants sont codépendants, en fait.
Et donc, vous vous êtes retrouvé à l'université de Toulouse ?
Non, à l'université de Cergy pour le master.
Ah.
Par contre, c'est le prix Prémisse qui est organisé par Lady Paris.
Voilà, je me suis mélangé les pinceaux, comme on dit, entre les deux. Donc, vous avez quand même mis les pieds à Toulouse.
Du coup, j'ai mis les pieds à Toulouse pour la restitution.
Par nécessité.
Du coup, je suis quand même allé à Toulouse. Voilà. Oui.
Et vous avez participé dans un programme qui est réalisé dans plusieurs domaines culturels. Hein. Et le vôtre est un atelier, entre guillemets, consacré au théâtre. On peut le dire comme ça. J'ai mis entre guillemets atelier volontairement parce que c'est pas franchement un atelier.
Non, c'est un prix, quoi. En fait, c'est un prix qui est organisé par Lydie Paris, qui est une professeure de lettres de l'Université de Toulouse. Et donc, un prix qu'elle a élaboré et qui recherche en fait des nouvelles formes entre théâtre et poésie, en fait. Donc
c'est une chercheuse, en quelque sorte.
C'est une chercheuse, en fait, qui cherche des nouvelles formes de littérature qui articulent le théâtre et la poésie, l'oralité, etc. Et alors, en fait, c'est pas réservé aux étudiants, c'est ce que je pensais moi-même que c'était réservé aux étudiants et même aux étudiants.
Bah, c'est l'impression qu'on a quand on lit le livre.
Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui répondent à cet appel à texte, sans doute parce que c'est une professeure et qu'elle envoie le communiqué à ses collègues professeurs qui l'envoient à leurs étudiants.
Oui.
Je pense que... Mais en fait, a priori, tout le monde peut y participer, en fait, quoi.
Ah oui, même quelqu'un qui travaille dans une entreprise.
Oui, tout à fait. Ouais. Ah, d'ailleurs, ouais. tous les lauréats, en fait. Alors si je crois pour le coup là, c'est que des étudiants cette année.
C'est un peu le hasard, cela dit.
Oui, mais c'est des étudiants de différents horizons, en fait.
Pas forcément les mêmes que vous.
Exactement. Ouais.
Alors, ce travail s'est traduit par une publication des pièces sélectionnées aux éditions Domens. Il y a 4 pièces qui ont été choisies, et parmi elles, alors c'est là que quand même, cocorico, c'est vous qui avez décroché le pompon, si j'ose dire, la première place, pour mieux dire, avec les Puzzle, c'est le titre de votre pièce, puisqu'il y est question d'os. Il s'agit donc d'un dialogue, en quelque sorte, entre squelettes. En résumé, que se disent-ils et surtout, que tentent-ils de faire ? Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu tout ça ? C'est pas évident, hein ?
C'est la grande question, c'est très difficile à résumer comme texte, évidemment, parce qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas à proprement parler d'intrigue, même si... En fait, c'est plus une situation.
C'est ça.
Une situation qui est défilée sur une quinzaine de pages. Et il y a quand même une évolution, parce qu'on part d'une multiplicité de personnages qui va se réduire de plus en plus. Sauf qu'en fait...
Le nombre de pièces diminue.
C'est ça. En fait, il faut imaginer des espèces d'humanoïdes, de corps un peu...
sous terre, là, qui vivent sous terre.
Il faut avoir un peu les corps de la peinture de Francis Bacon en tête, quoi.
Pour avoir un peu la représentation. Tout à fait, je vois très bien.
Ouais. Et donc, en fait, il y a des os répandus partout autour d'eux, et ils essayent de les récupérer pour se reconstituer.
Vous m'avez enlevé le verbe que je voulais prononcer. En fait, leur obsession, c'est d'essayer de se reconstituer, c'est quelque part d'essayer de renaître. Un espoir de renaissance. Mmh. C'est ça, ouais.
C'est en fait, une fois qu'ils ont reconstitué leur squelette, ils peuvent partir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partir?
Et puis vers où?
Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ne sont plus avec les autres qui continuent, eux, de chercher. Et le problème, c'est que des os, il n'y en a pas pour tout le monde. Et à la fin, il en reste un qui ne peut plus partir parce qu'il n'a pas réussi à se reconstituer.
Il lui manque des pièces pour pouvoir le faire. Exactement. Alors, il se retrouve tout seul.
Il se retrouve tout seul, mais en fait, comme il n'y a jamais d'indication de nom de personnage, en fait, on peut se demander s'il n'a pas été tout seul depuis le début, en fait. En fait, on ne sait jamais s'il y a vraiment plusieurs personnages ou si c'est juste... une conscience qui s'invente des voix, quoi.
Alors c'est amusant ce que vous dites, parce que c'est vous qui dites ça, on ne sait pas. Bah mais oui. Vous, dans votre tête, vous êtes dit quelque chose quand même. Vous vous êtes dit, moi j'aimerais bien que ce soit comme ça. Non ?
Alors en fait, le truc, vous l'avez, c'est que moi...
Quand volontairement, j'ai... même vous... Oui, mais vous avez voulu ne pas savoir.
Parce qu'il y a une indécision et une confusion qui est propre à mon écriture de fiction. Moi, pendant mon master, j'ai beaucoup travaillé sur Samuel Beckett et la fiction beckettienne. C'est vraiment
en
ça.
En attendant Godot, par exemple.
Ouais, alors en attendant
un des
Godot,
plus célèbres.
Mais les textes auxquels je pense le plus, c'est plutôt ses récits de fiction et pas tellement son théâtre en fait. C'est surtout l'innommable Cap au Pire. Compagnie, où c'est vraiment une voix qui parle comme ça dans le noir et qui s'invente d'autres voix, et en fait on sait jamais s'il est vraiment avec d'autres personnes, s'il est tout seul, mais en tout cas voilà, c'est juste une voix qui parle dans l'obscurité et qui fait naître des images par un récit continu en fait.
En fait, ça a été ça la base de votre propre
c'était la base
pièce.
De ma représentation en tout cas de pendant que j'écrivais. En fait, j'arrivais pas à imaginer des gens sur scène qui imitaient les corps qui cherchaient les os. Pour moi, c'était juste la scène plongée dans le noir avec ces voix qui surgissent, sans savoir d'où elles viennent ni de qui elles proviennent, en fait.
Alors, du coup, c'est pas évident à jouer sur une scène de théâtre.
Bah, du coup, non, mais c'est ça qui m'intéressait. C'était l'idée d'expérimenter
l'impossible,
un théâtre dans le noir, quoi. Oui, c'est ouais, ça. Bah oui, de toute façon, en tout cas, chez Beckett, c'est vraiment ça, la fiction, c'est essayer de figurer l'impossible.
En lisant les trois autres pièces de Camille Michel, Brigitte ouais. Léveillé et Sylvia Anaori, j'avais un peu les mêmes sentiments de ces pièces de théâtre qui en sont et qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'elles sont pas injouables, mais elles sont très compliquées à jouer, probablement.
Alors je trouve que c'est particulièrement vrai chez Brigitte Léveillé. C'est le texte qui m'intéresse le plus personnellement. C'est parce qu'il y a la description d'un décor, mais il n'y a pas de description de personnage. C'est-à-dire qu'il y a un décor, mais...
on ne le voit pas.
Mais ouais, c'est ça. En fait, il y a une espèce de...
Là aussi, on est dans le noir.
D'abstraction, en fait. Et effectivement. Ça. Et là, au niveau de l'écriture, on est plus sur de la poésie en prose que du théâtre.
C'est ça, c'est pareil. C'est ça.
Il n'y a pas de personnage annoncé. Ni
c'est
rien.
Une voix.
C'est une voix.
On entend, c'est juste une voix. Donc, en fait, c'est une scène avec un décor qu'on devine, mais qu'on ne voit pas. Et en plus, il n'y a pas de personnage sur la scène. Ouais. C'est vraiment pousser le bouchon très loin. Là.
Très dépouillé.
Ah ouais, là, c'est vraiment. C'est vrai que pour quelqu'un qui exploite une salle de théâtre, ça coûte nettement moins cher. Hein, oui. Parce qu'il y a quand même moins d'acteurs à payer. Et puis là, vous, c'est pareil, des squelettes, je ne pense pas qu'ils vont demander un cachet très élevé.
Non, puis encore une fois, je pense qu'il ne faut pas le prendre au sens premier du terme. Quoi. Toutes ces histoires d'os et de squelettes, pour moi, faut figurer ça autrement, en fait, quoi.
Ah oui, oui, il faut le prendre avec humour, hein, oui, je pense. Ouais. Hein. Ouais. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Hein. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Hein.
Ah oui, bah, c'était le but, c'était de faire un texte drôle. Oui, c'est...
Bah, ah oui, oui, moi, j'ai plutôt trouvé ça marrant, quoi.
Oui, oui.
C'était une autre façon de regarder la mort. Comment moi je vais être quand je vais être mort, peut-être qu'il m'arrivera ça, je serai en train d'essayer de me reconstituer au maximum, tout, pour l'éternité, en tout cas,
c'est un peu une vie,
passer l'éternité
c'est
à essayer ça.
C'est une vision de l'enfer, oui, effectivement.
Voilà, c'est une autre vision de l'enfer. Ouais.
Mais voilà, j'essaye pas d'être tragique, désespéré ou quoi.
Ah non, moi j'ai pas lu ça comme ça.
Mais bravo, merci, parce que c'est ce que je veux, en fait. C'est que,
c'était plutôt drôle.
C'est que ce soit d'un côté, à première vue, effrayant, sordide, etc., mais qu'en fait, ça fasse rire, quoi.
Mais en fait, je vous ferai quand même un reproche. C'est d'accord. Justement de ne pas avoir de sourire de squelette, ouais, qu'on leur voit les dents. Peut-être c'est ça qu'il faut faire apparaître sur la scène.
Oui.
Les dents dans un éclairage comme ça, qui est un sourire des morts, quoi.
Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then, my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day. I'll be all alone. Oh, 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 any day now, when your restless eyes meet someone new.
À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Alors, je vais résumer rapidement, justement, là, on vient de parler de votre pièce à vous, mais pour quand même que les gens sachent, commençons un petit peu les trois autres pièces. Là, on vient d'en résumer une déjà pas mal. Bon, elles sont pas forcément drôles non plus les autres. De toute façon, elles sont ni optimistes, ni drôles vraiment. Surtout, c'est ça qui m'a frappé, c'est venant d'une génération comme vous, celle de Camille Michel. Michel, la mémoire des cendres est axée sur la Syrie. C'est quand même pas drôle forcément. La perte des vies, la séparation des vies, la séparation des gens qui s'aiment, qui sont séparés par les événements. C'est quand même assez lourd à lire. C'est assez lourd. Je parle pas de la qualité, parle de l'ambiance, quoi. On sent que on est dedans. C'est les gens qui doutaient encore de ce qui se passe, comme aujourd'hui à Gaza. Là, ils ont un résumé de la situation réelle, en fait. C'est très réel. Comme pièce.
Oui, c'est une pièce qui est beaucoup plus ancrée dans la réalité. Alors voilà. Moi, c'est pas du tout ce que je fais justement. Alors,
non, là on est en
c'est
antagoniste.
Voilà, là c'est un texte forcément qui me parle un peu moins, mais qui est très bien réalisé dans ce qu'il fait. Et oui, ça dépeint une réalité qui est terrible. Elle le fait avec brio, avec un lyrisme très bien dosé. Enfin, c'est très bien fait.
Alors moi je la connais pas cette femme, mais on a l'impression qu'elle a vécu ça, quoi. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas.
Je saurais pas dire non plus parce que je l'ai rencontré qu'à une occasion du coup et on a eu très peu de temps.
Vous avez pas eu le temps de développer ça. Mais ce serait intéressant de lui poser la question de savoir comment elle a ou alors elle a rencontré des gens qui lui ont raconté. Mais alors c'est fort quoi. C'est très journalistique pour le coup si c'est des témoignages.
Parce que si je me rappelle bien ce qui est dit dans l'introduction du volume, il me semble que l'acteur qui joue le personnage principal, oui lui pour le coup avait vraiment vécu cette situation.
C'est ça.
Par contre, si je peux me permettre, ça m'étonne pas du tout d'un point de vue générationnel. Parce que vous disiez tout à l'heure, ça m'étonne pour votre génération, etc. Mais au contraire, on est une génération qui est très... on parlait de désespoir, justement, et on est une génération qui est très désespérée, en fait, principalement pour les raisons de changement climatique, etc., mais aussi la montée des conflits, de l'extrême droite, etc. On a beaucoup de sujets d'inquiétude. En fait.
Bah, ce qui explique peut-être ce livre, finalement, je disais que c'était quand même assez négatif, les quatre pièces, mais après tout, c'est le reflet d'un regard
Oui, c'est le
reflet d'une génération aujourd'hui qui a 20 ans, 30 ans, entre 20 et 30, on va dire, et qui se dit, mais où je vais ?
Alors, sauf le Sylvie Anaori qui a fait le quatrième texte, elle est plutôt de votre génération à vous, en fait. Mais elle a étudié toute sa vie, en fait.
Ça, c'est intéressant, ouais. Parce que vous voyez, moi, je pensais qu'elle était, du coup, c'est ce qu'on disait au début, moi, je pensais que c'était quatre étudiants ou étudiantes.
Mais elle est étudiante, mais de votre génération.
Ah, c'est génial, ça. Comme quoi, hein, on apprend tout notre vie.
Mais il y en a pas mal à l'université, des gens de 50 ans qui étudient.
Moi, je l'ai fait, je l'ai fait aussi, moi. Ouais. Nous serons nombreux et fiers de Brigitte Léveillé, on en a parlé, alors on l'a dit, hein, c'est sombre, ça se déroule sans lumière, avec un décor qu'il faut deviner, avec une voix unique, avec une interlocutrice elle aussi invisible, et puis ensuite c'est Gypsy de Sylvie Anaori, dont que vous venez de citer, c'est une ambiance très lourde, avec ce fils qui vient voir sa vieille mère en traversant un couloir sordide, pour finalement se venger d'elle, ou de ce qu'elle lui a fait endurer dans son enfance. Alors Gypsy, qui est Gypsy ? C'est une araignée qui lâche là, dans cette pièce sordide, et je ne parle pas de la fin, parce que sinon ce serait même plus la peine de lire le texte, donc je ne le révélerai pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces trois compagnons de route que vous avez eus, votre regard à vous, lecteur, du coup, là, cette fois-ci, c'est plus à l'auteur, je m'adresse, c'est au lecteur.
Pour revenir brièvement sur le texte de Brigitte Léveillé, nous serons nombreux et fiers. Je voudrais souligner la qualité de la langue qui vraiment moi m'a bluffé. Il y a vraiment une recherche au niveau du vocabulaire déjà, mais au niveau de comment dire, de la musicalité. Il y a vraiment quelque chose de
ouais, vraiment, il y a un rythme,
il y a un
c'est ça.
Il y a un geste d'écrivain, quoi. Clairement,
il y a un tempo. Sur... Ouais, c'est ça.
Et sur le texte de donc Gypsy de Sylvie Anaori, c'est un film d'horreur. C'est l'ambiance est incroyable. C'est rare d'avoir ce genre d'ambiance là au théâtre. Et en fait, il faut savoir que pendant la cérémonie de restitution, en fait, les étudiants du master de recherche création de Toulouse représentaient en fait des extraits des quatre pièces. Et quand ils ont représenté l'extrait de Gypsy, c'était un étudiant du coup qui avait fait du théâtre et donc qui interprétait le rôle du fils, et il l'a joué magistralement, et c'était glaçant, quoi. On était tous figés dans la salle.
Donc ça prouve que la pièce elle est réussie à l'écrit, parce que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir finalement ce qui va se passer après. Hein. Et puis comment va réagir le public.
Oui.
Alors, je reviens quand même à vous, parce qu'il faut quand même qu'on précise plusieurs choses. Non seulement vous écrivez, ça on le sait maintenant, ça y est, mais vous êtes aussi dessinateur, puisque vous avez dessiné la couverture du livre Prémisse 3, hein, c'est le titre du bouquin dont on parle. Et puis vous êtes ici à Radio Alpa, donc vous faites aussi de la radio. Voilà. Donc vous êtes particulièrement multiple, avec tous ces bagages, est-ce que vous savez où vous allez aller avec tout ça ?
Justement, c'est la grande question. Là, actuellement, du coup, je suis en service civique à Radio Alpa, j'anime l'émission L'Amphi. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, parce que moi, mes deux passions, effectivement, c'est la littérature et le dessin et la culture artistique en général.
Il faudra que ça tourne autour de ça, il n'y a pas de doute.
Mais, il n'y a pas de doute, mais en même temps, c'est des milieux où c'est difficile de s'insérer. En général, ça prend du temps.
Faut être patient.
Voilà. Et donc, je pense en fait aller à la School Radio de Guichin, qui est une formation de 6 mois d'animateur radio, et donc de devenir animateur. animateur radio et de, par la suite, me spécialiser dans des émissions plutôt culturelles, littéraires, etc. J'adorais entrer dans le dessin de presse, surtout là.
Le dessin de presse.
C'est ce que j'expérimente depuis quelques mois et j'adore ça, en fait.
Charlie Hebdo, par exemple.
Ouais, si je pouvais travailler à Charlie Hebdo, ce serait génial.
Alors, votre passion, vous, c'est, parce que je le dis, parce que c'est, vous l'avez écrit, donc je l'ai lu. Vous, votre passion, c'est surtout le fantastique.
En dessin, ce que je cherche surtout, en fait, c'est à peu près la même chose qu'en écriture, c'est-à-dire le mélange de ce qui fait peur et ce qui fait rire, en fait. Moi, j'adore le rire sordide, c'est vraiment ce que j'adore, c'est pour ça que j'adore la caricature aussi. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je cherche. Et pour moi, le fantastique, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire naître ça, en fait. Parce que le fantastique, en fait, c'est quelque chose qui va créer un effet de décalage du réel, en fait, qui va rendre étranger ce qui, à la base, est familier. Enfin, c'est le concept de l'unheimliche de Freud, quoi. C'est l'étranger familier.
Et finalement, ce que vous dites, c'est que ce soit dans le dessin ou dans la littérature, c'est quelque chose qui va faire travailler l'imagination du lecteur ou de celui qui regarde un dessin.
Ouais, qui va faire travailler l'imagination.
La propre imagination du consommateur, entre guillemets, va jouer. C'est vrai que vous me faites penser à ça.
Mais c'est pas seulement une histoire d'imagination. Enfin, l'imagination, forcément, elle sert, mais elle sert, en fait, à questionner les représentations qu'on a du réel, en fait. De se rendre compte que rien de réel n'est accessible, en fait, parce que l'être humain est un être de médiation à cause du langage, et qu'il vit dans un monde de langage, et que le réel, en fait, il n'y a pas accès. Et c'est ça, pour moi, le fantastique, c'est cette brutalité du réel inaccessible, quoi.
Ah oui, ça c'est intéressant. Alors là, du coup, il faudrait 25 minutes de plus pour développer un sujet comme ça.
C'est l'objet de mon mémoire, quoi.
Ah oui, donc voilà. Donc, on va arrêter là, parce que c'est pas possible. Mais franchement, là, c'est un sujet, ça.
Oui.
C'est un vrai sujet de radio, hein, aussi. Et ou de télé.
Tout à fait. Pour faire des
émissions. Alors, vous citez aussi des références littéraires que vous avez. Vous avez cité Beckett. Bon, là, on a compris. Beckett, ça fait partie de vos préférés.
C'est le top 1,
mais vous citez aussi Michaud.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît chez eux, ces gens-là? Enfin, vous avez déjà un peu répondu pour Beckett, mais notamment pour quelqu'un comme Michaud.
Eh ben, pour Michaud, alors moi, ce que j'aime surtout, en fait, c'est sa première période, et notamment, du coup, ses recueils Plume, Lointain intérieur, La nuit remue, qui sont des recueils de poèmes en prose. Et là, pour le coup, où vraiment il y a un vrai travail de l'imaginaire, mais c'est-à-dire à faire naître des nouvelles images, pareil avec ce décalage. Il y a vraiment une exploration de la rêverie, etc. Donc c'est purement onirique, en fait, hein. Mais par contre, au niveau du style, il a un style qui, au contraire, assez scientifique souvent, et c'est ça, c'est cette espèce de contraste entre le scalpel de la langue et puis
l'ambiguïté un peu comme ça,
et puis le fantasque des images. Il y a cette confrontation là qui, en fait, ressemble pas mal à ce que fait Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles, et c'est ça que j'adore chez Michaud, voilà.
Ouais. Bon, bah, on va se quitter là-dessus parce que malheureusement ça tourne à une vitesse phénoménale. Une dernière question quand même, ouais. Prémisse 3, prix d'écriture théâtre poésie orale aux éditions Domains, où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre?
Alors, sur le site des éditions Domains, il faut aller sur la catégorie théâtre tangente et on pourra le trouver.
D'accord.
Alors, je ne sais pas s'il est déjà mis en ligne.
Il n'est peut-être pas encore en édition, on est un peu en avance.
Parce que nous, ce qu'on a eu, en fait, c'est des précommandes, entre guillemets. Donc, c'était les exemplaires donnés aux auteurs, quoi.
Donc les gens tape Domens, alors domens.fr,
ouais.
Et puis là, sur le site, ils vont voir comment se le procurer.
Il faut fouiller sur la catégorie théâtre tangente.
Alors voilà, très important, catégorie théâtre tangente. Effectivement, c'est marqué sur la couverture. Voilà, merci Charlie Pless.
Merci
et
beaucoup.
Puis bah, bon vent, hein, vous avez tout l'avenir devant vous, alors allez-y au galop.
Ah bah super, c'est parti.
Merci, au revoir.
Au revoir.
On dit que les jeunes ne lisent plus. Charlie Pless, Camille Michel, Brigitte Léveillé et Sylvie Anaori, même si les âges ne sont pas forcément ceux de la toute jeunesse, en tout cas, ces quatre-là prouvent le contraire. On peut au moins affirmer qu'il reste encore quelques passionnés et puis que l'espoir règne.